Bonsoir et bienvenue à l'Université de tous les savoirs pour cette conférence qui est la 733e. Je salue ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet, sur les sites du journal Le Monde et sur le site de l'Université de tous les savoirs, www.utls.fr. Donc nous commençons ce soir un cycle de conférences qui est consacré à la chimie et nous avons essayé de l'envisager dans un cadre quand même qui est réduit malheureusement. Pour des raisons de disponibilité de salle, nous avons essayé de l'envisager sous tous les aspects de la présence de la chimie, d'où le titre la chimie partout, fût-ce au risque de que nous soyons critiqués pour faire l'éloge de l'omniprésence de la chimie. C'est vrai que la chimie est partout, vous verrez, ce soir on parlera de l'histoire, on commencera par l'histoire, mais on parlera ensuite de la chimie de l'amour, puis des solides poreux, puis des énergies, bien sûr, puis de la chimie douce et des matériaux bio-inspirés, puis d'une chimie de la beauté. Ensuite, bien sûr, il sera question de chimie théorique, de médicaments, et notamment à travers la question de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Il y aurait bien d'autres sujets qui auraient pu être abordés, notamment un sujet dont je regrette qu'il ne soit pas présent, mais nous n'avons pas, encore une fois, assez de disponibilité de salle. C'était chimie et alimentation, l'omniprésence de la chimie dans l'alimentation. Puis de même, aujourd'hui, chimie et cuisine, puisque vous savez qu'il y a tout un développement de la gastronomie chimique et moléculaire. Mais enfin, nous essayons de faire le tour d'horizon le plus large possible, d'où le titre, encore une fois, de cette série, La chimie partout. Alors, ce cycle de conférences a été conçu pour l'Université de tous les savoirs par notre ami, mon ami, que vous connaissez déjà, Michel Verdaguer, puisque c'est lui qui nous avait... il est intervenu en l'an 2000, c'est lui qui a conçu aussi le programme sur le magnétisme. Il est professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie et il présentera demain la conférence. Je signale qu'il a conçu une grande partie de ce programme au milieu des tremblements de terre et des répliques au Japon, mais je pense que le programme est stable pour autant. Donc qu'il soit vraiment remercié, mais nous aurons l'occasion de le lui dire souvent. Alors ce soir nous recevons Bernard Joly, qui est professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences, qui va commencer par le commencement, si on peut dire, enfin le commencement pour être en bien des endroits, et il nous parlera de quand la chimie s'appelait alchimie. Nous irons ainsi jusqu'au 29 mai, jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'à dimanche prochain. Un mot sur les différents modes de diffusion. Vous les connaissez, parce que je reconnais beaucoup d'habitués ici. Vous les retrouvez sur nos programmes à l'accueil. Toutes nos conférences, vous le savez, mais c'est toujours bon de le répéter, sont filmées et sont archivées avec les documents à l'appui. Ce soir, notamment le texte écrit de cette conférence, et tout cela se retrouve sur www.utls.fr, ainsi que d'ailleurs les conférences que nous organisons, parce que c'est un des volets importants de notre activité, les conférences que nous organisons dans les lycées pour susciter des vocations et ouvrir les lycéens à la connaissance de ce que ça peut être que la recherche et le travail scientifique. Alors la conférence de ce soir, c'est quand la chimie s'appelait alchimie. Je donne quelques indications sur la biographie de Bernard Joly, professeur à l'université de Lille 3, à l'UFR de philosophie. Il est né en 1944, il était professeur dans cette université, agrégé au départ. Il a été pendant un certain temps professeur dans les lycées, puis ensuite, après avoir fait sa thèse, il est devenu maître de conférence de philosophie et d'histoire des sciences à l'Université de Lille 3, où il a fait toute sa carrière, en devenant ensuite professeur de philosophie. Il a été de 2002 à 2008. Ça, ouais, je crois que je m'arrête parce que c'est fini. Oui. Il a été de 2002 à 2008 président de la Société française d'histoire des sciences et des techniques et il est depuis très récemment professeur émérite. Alors, ces publications, je ne les citerai pas toutes, mais disons que deux livres marquent le début et puis l'état actuel de son travail. La rationalité de l'alchimie au XVIIe siècle, paru aux éditions Vrin en 1992, et Descartes et la chimie, paru chez Vrin toujours en 2011. Et puis, entre tout ça, il y a des publications dans les revues d'histoire des sciences, dans les différentes annales de recherche historique, dans la revue philosophique, toujours autour de l'alchimie, des théories du feu, de l'ambiguïté des paracelsiens face à la médecine galénique, etc. etc. Il va donc nous parler, je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, de quand la chimie s'appelait alchimie. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Le 15 avril 1722, Étienne-François Geoffroy, l'un des chimistes français les plus réputés de l'époque, présente à ses collègues de l'Académie royale des sciences un mémoire intitulé « Des supercheries concernant la pierre philosophale ». Geoffroy était alors un personnage important et respecté. Membre de l'Académie depuis 1699 et aussitôt chargé des relations avec la Royal Society de Londres, dont il était fellow, il enseignait la chimie au Jardin Royal des Plantes depuis 1707. Il était également professeur de médecine au Collège Royal depuis 1709. Il deviendra doyen de la faculté de médecine de Paris en 1726. Mais Geoffroy devait surtout sa notoriété au mémoire intitulé « Table des différents rapports observés entre différentes substances » qu'il avait présenté à l'Académie 4 ans plus tôt, en 1718. Il écrivait alors « Toutes les fois que deux substances qui ont quelques dispositions à se joindre l'une avec l'autre se trouvent unies ensemble, s'il en survient une troisième qui ait plus de rapport avec l'une des deux, elle s'y unit en faisant lâcher prise à l'autre. » Alors, les chimistes avaient depuis longtemps observé les affinités entre les substances qui se manifestent notamment sous forme de précipitations métalliques lorsqu'on introduit un alcali dans la solution d'un métal dans un acide. L'acide, qui a plus d'affinité avec l'alcali qu'avec le métal, laisse tomber ce dernier. L'originalité du travail de Geoffroy consistait à mettre les affinités en tableau, classant ainsi les substances en ordre décroissant selon le degré d'affinité qu'elles entretiennent avec les substances de la première ligne de chaque colonne. Le tableau se lit donc verticalement. Les symboles utilisés sont ceux qui étaient en usage dans la chimie de l'époque. Cette doctrine que Lavoisier délaissa sans vraiment la remettre en cause, constitue une partie essentielle du socle de la chimie pendant tout le XVIIIe siècle. Mais revenons aux mémoires de 1722 sur les supercheries des alchimistes. Il s'agit d'un texte de 9 pages qui commence par une sorte d'exposé des motifs. Geoffroy écrit « Il serait à souhaiter que l'art de tromper fut parfaitement ignoré des hommes dans toutes sortes de professions. Mais puisque l'avidité insatiable du gain engage une partie des hommes à mettre cet art en pratique d'une infinité de différentes manières, il est de la prudence de chercher à connaître ces sortes de fraudes pour s'en garantir. Dans la chimie, la pierre philosophale ouvre un très vaste champ à l'imposture. L'idée des richesses immenses qu'on nous promet par le moyen de cette pierre frappe vivement l'imagination des hommes. » Geoffroy, qui inscrit donc la recherche de la pierre philosophale à l'intérieur de la chimie, présente tout d'abord un certain nombre de supercheries qui ne sont que d'habiles manipulations, des trucs de charlatans qui ont caché l'or ou l'argent qu'ils prétendent avoir fabriqué dans l'un ou l'autre des instruments qu'ils utilisent. D'autres procédés, au contraire, sont fondés sur une connaissance des propriétés chimiques de certains corps, soit que l'on déguise l'or ou l'argent en leur donnant dans un premier temps l'aspect d'un métal vil, soit que l'on confère l'apparence de l'or ou de l'argent à un métal qui n'en est pas un. Ainsi, écrit Geoffroy, le mercure chargé d'un peu de zinc et passé sur le cuivre rouge lui laisse une belle couleur d'or. Quelques préparations d'arsenic blanchissent le cuivre et lui donnent la couleur de l'argent. La supercherie réside ici dans l'interprétation que l'on donne d'une opération chimique, mais non pas dans l'opération elle-même, dont la réussite suppose une certaine compétence de chimiste. Il faut alors remarquer que Geoffroy, loin d'évoquer une alchimie révolue, étrangère à la science de son temps, situe les pratiques qu'il évoque dans le champ d'une chimie contemporaine qui met en œuvre des recettes éprouvées que certains chimistes malhonnêtes peuvent utiliser pour abuser un public facilement trompé par des manipulations qui impliquent une connaissance scientifique qu'il ne maîtrise pas. Situation, somme toute, assez banale. On peut alors se demander quelle est la véritable signification de ce mémoire. On y a souvent vu la preuve qu'en ce début du XVIIIe siècle, la chimie, enfin devenue une véritable science, avait définitivement rompu avec une alchimie que l'on suppose irrationnelle, voire ésotérique. Les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi donc faudrait-il encore, devant l'élite scientifique de l'époque, expliquer toutes ces supercheries si la cause était entendue ? Il semble bien au contraire qu'en 1722, la rupture entre la chimie et l'alchimie était d'autant moins consommée que l'alchimie n'avait été jusqu'alors que l'autre nom de la chimie. Chimie et alchimie étaient au XVIIe siècle deux termes synonymes. Trois remarques pour éclairer ce point. Premièrement, il convient de rappeler que, jusqu'à l'époque de Lavoisier, on considérait les métaux comme des corps mixtes. Il n'était donc pas absurde de penser qu'une opération chimique puisse, par un processus de décomposition et de recomposition, transformer du cuivre en or, ou encore qu'il soit possible de purifier les métaux imparfaits en leur conférant les propriétés de l'argent et de l'or. Même Descartes, qu'on ne peut soupçonner de complaisance à l'égard de l'irrationnel, semblait admettre ce point de vue, puisque dans un texte de 1647, qui est l'examen critique d'un placard où son disciple Régius défendait des thèses théologiquement ambiguës, il distinguait, donc Descartes distinguait soigneusement les choses qui relèvent de la foi ou du débat théologique de celles qui, je le cite, sont seulement soumises à la recherche du raisonnement humain comme la quadrature du cercle, la pierre philosophale et autres semblables. Descartes doutait que la transmutation des métaux soit possible, mais il considérait que c'était là un sujet digne de réflexion, digne d'étude. Ce point de vue était partagé par de nombreux philosophes et savants de son temps, Francis Bacon, Leibniz, Spinoza, Robert Boyle, John Locke, prenaient très au sérieux les recherches alchimiques de leurs contemporains. Et l'on sait aujourd'hui que Newton, passant un temps considérable à recopier, étudier, commenter des textes alchimiques dont il mettait en œuvre les recettes dans un laboratoire de Trinity College à Cambridge. Ma seconde remarque s'appuie sur l'examen de l'étrange querelle qui opposa Geoffroy à l'un de ses collègues de l'Académie des sciences, Louis Lemery, dans les premières années du XVIIIe siècle, à propos de ce qu'ils appelaient la fabrication artificielle du fer. Geoffroy, qui avait observé que les cendres végétales comportent toujours des particules de fer attirées par une lame aimantée, ne pouvait admettre l'explication donnée par son collègue, selon lequel les corpuscules métalliques présents dans la terre remontaient dans la plante avec la sève. Cela semblait, pour Geoffroy, contredire les lois de la pesanteur. Il supposait donc que la combustion du végétal était une opération au cours de laquelle les principes constitutifs du fer, qui étaient selon lui le soufre, la terre et un esprit acide, étaient rassemblés pour reconstituer le métal. À l'appui de sa thèse, il n'hésitait pas à invoquer une recette de transmutation proposée en 1671 par l'alchimiste allemand Johann Joachim Becker dans un texte intitulé « Experimentum chimicum novum », etc., je traduis « Nouvelle expérience chimique » par laquelle la génération et la transmutation artificielle et instantanée des métaux est mise en évidence. Dans cet opuscule, Becker se référait lui-même à l'un des traités alchimiques les plus célèbres du Moyen-Âge, la « Summa perfectionis magisteri », ouvrage attribué à l'arabe Geber, mais en réalité écrit en latin vers la fin du XIIIe siècle. Geoffroy, qui ne marquait aucune frontière entre alchimie et chimie, situait ainsi ses nouvelles recherches sur les métaux dans la continuité des travaux des alchimistes. Louis Lemery, au contraire, appelait alchimie la chimie périmée des siècles précédents, qu'il voulait remplacer par une conception mécaniste de la matière. Il ne manqua donc pas de relever le caractère à ses yeux compromettant de cette référence à Becker, qui, disait Louis Lemery, voulait défendre l'alchimie contre les injures publiques. Défendre l'alchimie contre les injures publiques, nous voilà précisément au cœur du problème, et c'est ma troisième remarque. Il est incontestable que l'alchimie, dès la fin du Moyen-Âge, avait acquis une mauvaise réputation. C'est ce qu'indiquent de nombreuses représentations picturales, comme ce célèbre tableau de Bruegel, qui montre un alchimiste ruiné par la folie de son entreprise, se réfugiant dans le quart en haut à droite du tableau, se réfugiant à l'hospice avec femme et enfant, ou encore la pièce de théâtre intitulée The Alchemist, publiée en 1610, dans laquelle Ben Jonson dénigre les alchimistes avec la même virulence que Molière s'en prenant aux médecins quelques décennies plus tard. Les alchimistes furent donc amenés à mettre en œuvre diverses stratégies pour se défendre, et en particulier se démarquer des nombreux charlatans qui, dans l'espoir d'obtenir des transmutations alors qu'ils ignoraient tout de la science alchimique, prétendaient être capables de réaliser ces transmutations. Il fallait alors publier des ouvrages théoriques dont la doctrine justifiait la transmutation et ridiculisait les adversaires en montrant leur ignorance des véritables secrets de la nature tout en dénonçant les procédés frauduleux des imposteurs qui jetait le discrédit sur les authentiques savants. La dénonciation des faux alchimistes était donc un lieu commun de la littérature alchimique. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est à ce type de littérature défensive que se rattache le mémoire de Geoffroy de 1722 sur les supercheries des alchimistes. Ce mémoire, en effet, présente de fortes similitudes avec un texte beaucoup plus ancien, publié à Francfort un siècle plus tôt, en 1617, par le médecin alchimiste Michael Mayer, sous le titre « Examen Fucorum pseudo-chimicorum », etc., examen des fraudes pseudo-chimiques, mises à nu et brièvement réfutées par amitié pour les amoureux de la vérité. Voilà le titre. Geoffroy reprend à la lettre, en la traduisant du latin au français, la dénonciation des procédés frauduleux que Mayer énumérait dans le quatrième chapitre de son traité. Alors, nous pourrions bien sûr supposer que Geoffroy a voulu utiliser contre les alchimistes les arguments que ces derniers avaient forgés contre leurs adversaires. Tous les alchimistes seraient alors, par définition, des charlatans. On pourrait aussi supposer que, au moment où sa gloire grandissait, notre chimiste ait voulu se démarquer d'un passé désormais jugé compromettant. Mais sans doute, Geoffroy mettait-il en œuvre une stratégie bien plus subtile. Il ne faut pas oublier, en effet, que sa table des affinités chimiques, publiée 4 ans plus tôt, ne résulte pas de spéculations théoriques, mais qu'elle s'appuie sur les résultats des travaux de laboratoire menés par les alchimistes au cours des siècles précédents. Refuser les travaux des alchimistes, ce serait vider la table des rapports de tout contenu empirique. En critiquant les supercheries des faussaires, Geoffroy espérait mettre en évidence le sérieux de la chimie quand elle est pratiquée par ceux qui sont mus par la recherche de la vérité, plutôt que par l'appât du gain. La chimie, en ce début du XVIIIe siècle, ne devait donc pas renier son passé alchimique, quitte à prendre ses distances avec ses erreurs et ses errements. Certes, le mot alchimie est désormais utilisé pour désigner la chimie des siècles précédents, dont les doctrines sont considérées comme périmées, mais l'alchimie fut bien l'autre nom de la chimie jusqu'au début du XVIIIe siècle. Il suffit de regarder les tableaux représentant un laboratoire alchimique, comme ceux du peintre flamand David Teniers. Il y en a un très grand nombre, c'était un genre pictural très répandu à l'époque. On constate alors que les appareils représentés dans ces tableaux sont exactement les mêmes que ceux que l'on trouve dans les cours de chimie de l'époque, comme celui de Christophe Glaser, publié à Paris en 1663. Ces recueils de recettes pharmacologiques et chimiques, qui n'avaient guère de prétentions transmutatoires, s'ouvraient le plus souvent par un rapide rappel de la doctrine des principes alchimiques, une explication des principales opérations et une présentation des appareils sur des planches gravées, comme celle dont vous voyez la reproduction. Mêmes appareils, mêmes recettes, mêmes doctrines. Au-delà de les distinctions entre ceux qui espèrent effectuer des transmutations et ceux qui se concentrent sur la distillation des plantes ou la calcination des métaux, il s'agit toujours de la même chose, chimie ou alchimie, comme on voudra. Il nous faut alors jeter un nouveau regard, débarrasser des distorsions et des illusions du scientisme aussi bien que de l'ésotérisme. Sur l'histoire d'une science chimique qu'il est impossible de séparer des théories et des pratiques de l'alchimie. Parce qu'elle fut à tort confondue avec l'occultisme, l'alchimie, jusqu'à une date récente, n'a pas retenu l'attention des historiens des sciences qui n'y reconnaissaient pas l'histoire d'une chimie ancienne, d'une chimie certes très différente de ce qu'elle est devenue par la suite, mais qui s'inscrivait pourtant dans les sciences et les techniques de son temps. Les lacunes sont encore immenses, mais on peut cependant essayer d'évoquer quelques moments de cette histoire. Les origines. Il serait vain de rechercher les origines de l'alchimie en des temps très reculés, du côté de l'Égypte ancienne, ou de la Mésopotamie. Certes, il y eut une alchimie en Chine, elle a été étudiée par Joseph Needham, peut-être aussi en Inde, mais leur influence sur l'alchimie occidentale reste aujourd'hui méconnue. L'alchimie, telle que nous la connaissons, est née dans les premiers siècles de notre ère, à Alexandrie, qui était alors le principal centre intellectuel du bassin méditerranéen. Aussi curieux que cela puisse paraître, la pensée scientifique antique, jusqu'au premier siècle de notre ère, n'avait guère développé de théorie chimique, le concept même de métal n'étant pas clairement défini. Le mot grec « métallon » désigne non pas le métal, mais la mine, et il n'existe aucun terme spécifique pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui un métal. Nul ne cherche, avant les premiers siècles de notre ère, à théoriser les pratiques artisanales des métallurgistes, des joailliers ou des teinturiers. C'est ce vide conceptuel qui va peu à peu se combler dans les premiers siècles de notre ère. L'auteur le plus célèbre de l'époque est un certain Zosime de Panopolis, qui vécut sans doute vers le début du IVe siècle de notre ère, et dont on connaît quatre ouvrages qui nous sont parvenus sous forme d'extraits éparpillés dans une centaine de manuscrits. Une partie de ces textes a été éditée, traduite, commentée par Michel Mertens dans la collection « Les alchimistes grecs » aux éditions des Belles-Lettres en 2002. Zosime développe une théorie qui fait du mercure le composant essentiel de tous les corps, celui à partir duquel leur nature pourra être transformée en or ou en argent. On trouve dans son ouvrage un mélange de recettes et de considérations symboliques, mais son grand intérêt vient de la description très précise de divers appareils, en particulier des alambics. On trouve dans l'ouvrage un mélange de recettes et surtout des descriptions d'appareils. Parmi les personnages qu'il cite comme ses prédécesseurs figure une femme nommée Marie la Juive. Elle aurait inventé la cornue, le tribicos, appareil de distillation à trois branches, ainsi que la kerotakis, dispositif à reflux pour le traitement des métaux par la vaporisation de diverses substances. Ces appareils nécessitent la présence d'un feu doux et régulier, obtenu par les cendres ou par le procédé qui porte précisément le nom de bain-marie. L'œuvre de Zosime est à la source d'une tradition qui se développe dans une série d'ouvrages qui, vers la fin du 7e siècle, sont rassemblés dans ce qu'on appelle le corpus alchimique gréco-alexandrin. À la fin du 19e siècle, Marcelin Berthelot, le célèbre chimiste, fut le premier à transcrire, éditer, traduire, commenter cet ensemble sous le nom de « Collection des anciens alchimistes grecs ». C'est paru en 1888. Ces premières élaborations résultent du mélange de trois types de sources. Tout d'abord, une littérature de recettes dont nous avons gardé la trace à travers des papyrus dits de Leyde et de Stockholm, parce que c'est dans les bibliothèques de ces villes qu'ils sont déposés aujourd'hui, papyrus de recettes concernant la manière de réaliser des alliages ou de donner à des métaux les aspects de l'argent et de l'or, mais aussi des procédés de fabrication de pierres artificielles et de teinture des tissus. Ces recettes ont été éditées, traduite, commentée par Robert Halleux dans la collection « Les alchimistes grecs » aux éditions des Belles-Lettres en 1981. Il est difficile de dire s'il s'agit seulement de procédés techniques visant l'imitation ou la falsification de pierres et de métaux précieux, et on pourrait alors parler d'orifiction, ou si, derrière ces recettes, se cachent déjà des intentions de transmutation. Et plutôt que d'orifiction, on aurait alors affaire à des procédés d'orifaction. Mais en fait, lorsque le métal modifié finit par présenter toutes les caractéristiques de l'or, ne faut-il pas penser que l'on est sur le chemin d'une véritable transformation d'un métal imparfait en un métal parfait? En particulier, grande est la tentation d'opérer un rapprochement avec les opérations de la teinture des tissus. Le produit tinctorial ne se contente pas de déposer la couleur à la surface du tissu, il pénètre au cœur même de la trame et la transforme. De la même façon, on imagine alors qu'au-delà des procédés superficiels de dorure, il est possible de faire pénétrer dans un métal une substance qui va le teindre en or, c'est-à-dire qui modifiera chimiquement ses propriétés métalliques. C'est cette substance que l'on appellera par la suite la pierre philosophale. Une seconde source de l'alchimie gréco-alexandrine est constituée par les théories antiques de la matière, qu'il s'agisse des réflexions sur les quatre éléments, héritées des philosophes présocratiques, que l'on retrouve ensuite dans les ouvrages de Platon ou d'Aristote, ou des réflexions esquissées par Aristote sur la formation des minéraux à partir des exhalations sèches ou humides. Enfin, une troisième source de ces premières productions alchimiques ou chimiques est constituée par la littérature hermétique qui se développe à cette époque également à Alexandrie. Alors, on l'appelle hermétique parce qu'elle est attribuée à un certain Hermès Trismégiste, trois fois très grand, personnage mythique derrière lequel se cachent des auteurs qui restent anonymes. Ce sont des rêveries mystico-philosophiques, s'inspirant librement des philosophies grecques antiques, notamment du Timée de Platon, mais aussi de diverses croyances religieuses alors en vogue dans l'Égypte hellénisée. André Festugière, qui a publié, traduit, commenté ce corpus aux belles lettres de 1947 à 54, a pu y voir l'expression de ce qu'il a appelé un déclin de la rationalité. Cependant, il ne faut pas, me semble-t-il, surévaluer l'influence réelle mais finalement assez discrète de ces idées entre guillemets hermétiques sur l'alchimie de l'époque. En fait, l'alchimie arabe et médiévale dont je vais maintenant parler a le plus souvent ignoré les textes attribués à Hermès Trismégiste qui ne furent redécouverts qu'au milieu du XVe siècle. L'alchimie arabe. Alors, dès le début de l'Égypte, les savants islamiques, et en particulier les Perses, traduisent les traités alchimiques grecs en arabe et donnent à la doctrine une rigueur nouvelle. Sous le nom de Jabir ibn Ayan, sont rédigés vers le IXe siècle après Jésus-Christ de multiples traités qui expliquent la formation des métaux dans les mines par un mélange proportionné de soufre et de mercure. On suppose que chaque métal contient, caché à l'intérieur de lui-même, un métal opposé qu'il est possible de faire apparaître par l'action d'un produit appelé élixir, al-ixir, c'est le médicament en arabe, obtenu par la distillation de substances organiques où le sel ammoniac joue un rôle important. Dans un ouvrage intitulé « Livre des balances », Jabir élabore même une théorie chimique quantitative où il donne les proportions qu'il faut respecter dans la fabrication de cet élixir et où il attribue à chaque produit un nombre qui exprime sa puissance opératoire. Paul Cross a été l'un des premiers à commenter cette doctrine dans un ouvrage qui s'appelle « Jabir et la science grecque » qui est paru en 1942 et qui reste encore aujourd'hui l'une des rares études sur cet auteur. À la même époque que Jabir, un autre médecin perse nommé Al-Khasi se livre à un important travail de classification des diverses substances chimiques connues à son époque, en particulier les sels. Dans ses traités, qui ont inspiré plusieurs ouvrages médiévaux latins, je veux dire écrits en latin, il met en évidence le rôle de l'élixir, médicament universel, qui guérit les métaux en leur donnant la perfection de l'or, mais qui guérit aussi les êtres vivants en délivrant leur corps des impuretés qui provoquent la maladie et qui leur confèrent ainsi la longue vie. La pierre philosophale et l'élixir de longue vie vont alors devenir les deux substances que les alchimistes espèrent obtenir et que leurs adversaires les accuseront de promettre en vain. J'ajouterai qu'il est possible que les alchimistes qui travaillaient alors en Perse et bénéficié d'informations en provenance de la Chine, mais ce point est jusqu'à maintenant très peu étudié. C'est donc juste une hypothèse. Le Moyen-Âge chrétien hérite d'une double tradition. D'une part, les recettes de teinturerie, de verrerie, d'orfèvrerie se transmettent sans discontinuer chez les artisans depuis l'Antiquité tardive. D'autre part, la grande entreprise de traduction des traités rédigés en arabe met à la disposition des intellectuels du XIIIe siècle un ensemble de doctrines philosophiques, médicales, chimiques, qu'il n'est pas toujours facile de concilier entre elles. Si les enseignements médicaux de Galien semblent bien cadrés avec la doctrine d'Aristote, par contre, les théories alchimiques exigent, pour être bien comprises, une théorie de la matière différente de celle que la philosophie grecque a transmise. Ainsi, dans un court traité intitulé « De congelatione et conglutinatione lapidum », la congélation et la conglutination des pierres, qui est en fait un extrait du Kitab al-Shifa, le livre du remède d'Avicenne, mais que l'on prenait parfois pour un texte venant d'Aristote lui-même, on lit l'injonction suivante. Je le dis en français, qu'ils sachent, les artisans de l'alchimie, qu'il n'est pas possible de modifier les espèces des métaux. Selon la tradition aristotélicienne, telle qu'on la comprend à l'époque, vouloir transformer une espèce métallique en une autre serait agir contre la nature, ce qui est impossible. On ne peut pas davantage transformer le plomb en or qu'un chien en chat. Ceux qui prétendent malgré tout le faire ne peuvent être que d'habiles faussaires ou de diaboliques magiciens. On voit ici apparaître encore une raison de l'hostilité à l'alchimie. On trouve cependant dans la suite du texte d'Avicenne, de façon un peu étrange, et c'est sans doute une interpolation, un ajout des copistes un peu tardive, une précision qui apporte aux alchimistes le moyen d'y parvenir. On ne peut transformer les espèces des métaux, à moins peut-être de les réduire en leur matière première. Qu'il existe une matière première des métaux qui puisse être isolée en laboratoire, et on est alors loin du concept aristotélicien de matière première, qui n'est pas une matière palpable. Donc qu'il existe une matière première des métaux qu'on peut isoler en laboratoire, voilà ce qui constitue désormais la conviction des alchimistes. Dès le milieu du XIIIe siècle, se développe une vaste littérature alchimique dont les auteurs, souvent anonymes, se cachent derrière les noms illustres d'Aristote, de Platon, de Thomas d'Aquin, d'Albert le Grand, de Roger Bacon, de Raymond Lull. Ils exposent ce que l'on pourrait appeler la doctrine de l'alchimie classique, à laquelle se réfèrent encore de nombreux alchimistes du XVIIe siècle, qui peuvent en prendre connaissance dans de grands recueils de textes qui sont imprimés un peu partout en Europe, dès la fin du XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIIe. Doctrine qui diffère certes d'un auteur à l'autre, mais qui tourne toujours autour des quelques points essentiels que je résume très brièvement. Tout d'abord, les alchimistes considèrent que les métaux qui croissent dans les mines à partir d'une semence métallique venue du ciel sont constitués de deux principes, le mercure et le soufre, qu'il ne faut pas confondre avec les produits chimiques portant le même nom. Le mercure est le principe de la fusibilité et de la fluidité des métaux, tandis que le soufre est le principe de leur combustibilité, mais aussi de leur solidité. En fait, la nature ne voulait fabriquer que de l'or, mais l'impureté de la terre ou une chaleur inadéquate ont entraîné dans les mines la production de métaux imparfaits comme le cuivre, le plomb, le fer ou l'étain. Il s'agit donc de réactiver le processus naturel par le moyen d'opérations de calcination, de distillation, de sublimation, avec des substances dont le choix constitue le véritable secret de fabrication. On espère ainsi produire une poudre qui est, que les Arabes appelaient l'élixir, et qui est désormais appelée lapis philosophorum, la pierre des philosophes, la pierre philosophale. Projetée sur un métal vil, elle le pénètre, réactive le processus de maturation qui avait été accidentellement interrompu dans la nature, et elle porte ainsi le métal imparfait à sa perfection. On le voit, la doctrine alchimique ne saurait être séparée du travail de laboratoire. Bien sûr, le recours à l'expérience ne remplit pas les mêmes fonctions dans l'alchimie médiévale ou de la Renaissance que dans les sciences modernes. Il n'est pas question de mettre des hypothèses à l'épreuve ou d'entreprendre une réfutation des théories. On est très loin de l'épistémologie de Popper ou de Kuhn. La pratique n'est que le prolongement de la théorie dont elle manifeste progressivement la vérité. Dans ces conditions, lorsque l'alchimiste n'obtient pas dans ses appareils la pierre philosophale, cela ne signifie pas que la théorie était fausse, mais seulement que l'alchimiste s'est trompé. Il n'a pas choisi les bons matériaux, il n'a pas su régler convenablement ses feux, il a voulu aller trop vite. Mais qu'importe, au fil de ses travaux de laboratoire, l'alchimiste apprend à mieux connaître les propriétés des diverses substances qu'il utilise. Mieux qu'un autre, il comprend la nature et ses secrets et produit une science qui lui semble supérieure à celle que délivrent les universités, où l'on garde les yeux rivés sur les textes d'Aristote. Les alchimistes doivent alors renoncer à la légitimité sociale et professionnelle que les institutions universitaires apportent à la médecine ou aux juristes. Pour autant, et malgré cette exclusion de fait de l'alchimie de l'université et donc des savoirs officiellement reconnus, pour autant il n'y a rien de magique dans les pratiques et les savoirs de l'alchimiste. Si son action est efficace, c'est parce qu'elle se fonde sur une connaissance vraie des œuvres de la nature dont il s'agit d'imiter les procédés. Dans cette volonté de l'alchimie médiévale de ne point séparer la théorie de la pratique, certains commentateurs d'aujourd'hui ont même voulu voir l'une des premières manifestations d'un esprit technologique qui caractériserait le monde occidental. Alors bien sûr, ça ne marche pas. On ne sait pas transmuter les métaux, mais on peut toujours espérer être sur le chemin de la réussite. Et en attendant, rêver peut-être. L'alchimie du XVe siècle découvre le plaisir des images. Et bientôt, l'imprimerie naissante favorise la diffusion de traités illustrés de belles gravures. Chez certains auteurs, l'alchimie risque alors de se perdre dans un jeu de symboles se renvoyant les uns aux autres, jeu dans lequel la réalité des opérations chimiques semble parfois oubliée. On voit apparaître des rois que l'on tue ou qui mangent leurs fils, des couples qui copulent, des dragons qui se mangent la queue, des lions ailés, des phénix ou des salamandres qui vivent dans le feu. À la faveur des progrès techniques de la gravure, un étrange bestiaire et de curieux personnages emplissent alors certains traités et provoquent le dérapage du théorique vers l'imaginaire. Entre la théorie et la pratique se glissent des images que l'on voudrait médiatrices, mais qui deviennent quelquefois dominatrices. On oublie les rigueurs de la théorie pour mieux se consoler dans la contemplation et le plaisir des images, des échecs répétés de la pratique. Mais vient Paracelse et le succès de l'alchimie se trouve prolongé de 2 siècles plus tôt. De son vrai nom, Philippus Aurelius Theophrastus Bombast von Hohenheim, né en 1493 et mort en 1541, ce médecin helvétique contemporain de Luther représente de manière exemplaire l'alchimiste en révolte contre les savoirs établis et dogmatiques. Il n'est pas étonnant que son œuvre, pourtant composé d'un grand nombre de traités confus et de lectures très difficiles, se soit largement diffusé dans toute l'Europe dès la seconde moitié du XVIe siècle. Refusant la médecine des livres et le savoir des universités, Paracel cherche la science là où les doctes ne voient qu'objet de mépris. C'est dans la multitude des remèdes populaires recueillis au cours de longs voyages à travers l'Europe, et non pas en lisant les traités de Galien, qu'il veut jeter les fondements d'une médecine nouvelle. C'est en observant la multitude des objets que nous offre la nature et en recherchant les correspondances qui se tissent entre eux et non pas en suivant les enseignements des universités qu'il entend construire des savoirs nouveaux. Paracelse est médecin avant d'être alchimiste, mais pour parvenir à la guérison, il faut connaître la maladie et donc comprendre la nature de l'homme chez qui elle survient, c'est-à-dire reconnaître les multiples liens qui le relient à l'univers, ce qui permettra de déterminer la substance susceptible de le guérir, substance que Paracelse appelle l'arcane. L'art des hommes qui cuisent, dissolvent, distillent, rejoint l'action de la nature dans la digestion de l'estomac, la germination de la graine ou la croissance supposée du métal. Partout, la nature agit par dissolution, calcination et distillation. Tout dans la nature, aussi bien que dans le corps humain, se ramène au fonctionnement de l'alambic, qui est à la fois le modèle des opérations naturelles et l'instrument privilégié du laboratoire, puisque c'est par lui que s'effectue la séparation des trois principes constitutifs des animaux, des végétaux et des minéraux, Paracelse ayant ajouté le sel au mercure et au soufre de la tradition médiévale. On en vient à ce qu'il est convenu d'appeler l'âge classique, le XVIIe siècle, au cours duquel l'alchimie connaît une fortune immense. Des centaines de livres sont imprimés, on édite des recueils de textes qui mêlent les grands classiques du Moyen-Âge aux nouvelles productions des paracelsiens. De tous côtés, des médecins se réclament de l'alchimie pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques. Car l'alchimie du XVIIe siècle est d'abord au service d'une médecine nouvelle, qui se nomme volontiers hermétique, non pas pour marquer son obscurité, mais pour mieux s'opposer à la médecine galénique, en invoquant le patronage de ce trop fameux Hermès Trismégiste, dont l'Antiquité semble une preuve de sérieux. À ceux qui invoquent les travaux d'Aristote et de Galien, les médecins paracelsiens opposent une tradition qui, en deçà de Paracelse et des alchimistes médiévaux et arabes, remonterait jusqu'à cet auteur supposé égyptien que l'on prétend avoir été un contemporain de Moïse. C'est à ce moment que l'expression « médecine hermétique » devient un synonyme de « médecine chimique ». Un peu partout en Europe éclatent alors des querelles entre les médecins chimistes et les facultés de médecine qui les accusent d'être des empoisonneurs en voulant utiliser des médicaments chimiques d'origine minérale et en particulier l'antimoine, qui est supposé être un poison, qui en est un d'ailleurs. Les publications alchimiques se comptent par centaines au XVIIe siècle. À côté des cours de chimie rédigés en français, recueil de recettes au succès considérable, apparaissent des traités rédigés en latin dans lesquels les auteurs exposent et perfectionnent la doctrine dont ils entendent montrer le caractère encyclopédique. L'alchimie devient pour eux la clé permettant d'interpréter et d'éclairer aussi bien les phénomènes naturels que les discours humains, comme ceux de la mythologie antique ou même de la religion chrétienne. Tout peut passer au filtre ou à la moulinette, si je puis dire, de l'interprétation alchimique. Les œuvres du chimiste flamand Jean-Baptiste Van Helmont, publiées en 1648, 4 ans après sa mort, contribuent au succès de la chimie en ce début du XVIIe siècle. Van Helmont met en évidence le rôle des acides dans le processus de la digestion. Il émet l'hypothèse d'un dissolvant universel qu'il appelle alkaest, qui pourrait mieux que la distillation séparer les principes chimiques, au premier rang desquels il met l'eau. Surtout, il découvre l'existence d'une substance impalpable qu'il est le premier à nommer gaz et dans laquelle nous reconnaissons aujourd'hui le gaz carbonique. En même temps, se déploient des réflexions que nous pourrions dire épistémologiques sur le statut des principes chimiques, dont on se met à douter qu'ils puissent être isolés comme de simples éléments constitutifs de la matière. Ils deviennent plutôt des classes de substances, des termes génériques désignant les propriétés communes à un ensemble de corps. Le principe soufre, que l'on va aussi appeler huile, regroupe tous les corps inflammables, ceux qui produisent de la chaleur et de la lumière. On n'est pas très loin du concept moderne d'hydrocarbure, d'une certaine manière. Le principe mercure, qu'on appelle aussi esprit, rassemble toutes les substances corrosives et en particulier les acides. Quant au principe sel, il se démultiplie en toutes sortes de sels, qu'ils soient neutres, acides ou alcalis. Grâce à la multiplicité de ces travaux et à l'efficacité de certaines de ces pratiques, l'alchimie acquiert alors une reconnaissance institutionnelle qu'elle n'avait pas eue pendant le Moyen Âge. À Paris, un poste de démonstrateur de chimie, que l'on écrit alors avec un Y, est créé en 1648 au Jardin royal des Plantes. Des chimistes accèdent à des postes de professeurs de médecine, d'abord en Allemagne et en Hollande, puis en Angleterre et en France. Enfin, les nouvelles académies reconnaissent la chimie comme une discipline spécifique à côté des mathématiques, de la physique ou de la botanique. Mais en même temps, on s'intéresse de moins en moins à la recherche de la pierre philosophale dont la quête paraît vaine. Et il y a là une sorte de paradoxe, puisque l'alchimie, qui se nomme de plus en plus souvent chimie, triomphe au moment où elle renonce à ce qui était sa principale raison d'être. Parce que le terme même d'alchimie semble trop lié à ces vaines recherches et aux impasses des doctrines principielles, on l'abandonne aux rêveries des nostalgiques du passé et l'on préfère désormais utiliser le terme de chimie pour désigner les nouvelles recherches dans lesquelles s'engagent les chimistes du XVIIIe siècle. Sans doute est-ce ce moment de continuité tout autant que de rupture que marquent les travaux d'Étienne-François Geoffroy que j'évoquais pour commencer. Continuité lorsqu'il étudie la composition du fer, rupture lorsqu'il critique les fraudes des alchimistes. Mais lorsqu'il met au point la table des affinités, les deux aspects de sa position se rapprochent. Il est archaïque, ou il semble archaïque, en reprenant tout le savoir accumulé au fil des siècles, et on le prend alors pour un alchimiste. Il est moderne, en mettant en tableau des rapports constants d'attraction entre les substances, ce qui le fera passer pour un newtonien. En 1953, Gaston Bachelard affirmait dans Le matérialisme rationnel que, je cite, « la chimie est une science d'avenir parce qu'elle est de plus en plus une science qui déserte son passé ». L'exemple de Geoffroy nous montre, me semble-t-il, le contraire. C'est parce qu'elle s'enracinait dans son passé que la chimie eut un avenir. Je ne crois pas qu'une science gagne beaucoup à oublier son histoire.
Bien, merci, merci Bernard Joly. Nous allons passer aux questions. Okay. Alors,
il n'y en a pas.
Ah, il n'y a pas de questions. On va attendre.
Il y a une dame.
Ah oui, madame. Le micro arrive vers vous. D'autres personnes se manifestent si on puisse.
Bonsoir. Je n'ai pas très bien saisi, en fait, comment on était passé du concept de métal produit mixte ou produit composé, en fait. Mmh. C'est ça que ça voulait dire. Comment on a pu passer de ce concept-là, si vous voulez, au concept de métal corps simple, finalement? Oui.
En fait, à l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire à l'époque de Geoffroy, au début du XVIIIe siècle, on considère toujours que le métal est un corps composé. Et très curieusement, je n'ai pas connaissance, peut-être est-ce simplement ignorance de ma part, mais je n'ai pas connaissance d'un auteur qui, à un moment donné, ait publié un texte ou ait fait une déclaration, par exemple, à l'Académie des sciences, pour dire « je vous annonce que les métaux sont des corps simples ». Simplement, c'est comme une conséquence inéluctable des travaux de Lavoisier. Et donc, une fois que Lavoisier a établi le processus d'oxydation, il n'est plus nécessaire, pour comprendre les transformations chimiques qui s'opèrent naturellement ou en laboratoire autour des métaux, il n'est plus nécessaire de les considérer comme des corps mixtes. C'est l'oxygène qui transforme le métal et qui s'assemble avec lui pour produire de nouvelles substances. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que le métal est un corps simple. Donc dans les tableaux des substances que dresse Lavoisier, les métaux apparaissent comme des corps simples. Mais c'est plus une conséquence de sa théorie qu'une renonciation dogmatique ou théorique, si je puis dire, aux conceptions anciennes. C'est venu tout naturellement.
Il est quand même surprenant que l'espèce humaine ait acquis pas mal de techniques dans le travail des métaux, puisqu'il connaissait le bronze, un certain nombre d'alliages, sans avoir absolument aucune notion de l'or. De leur composition, enfin. Et qui ne faisait pas la différence, si vous voulez, entre un minerai et un métal.
Il ne faisait justement très peu de la différence entre un minerai et un métal, c'est-à-dire que souvent le nom donné au métal est le nom du minerai, et les premières opérations d'action de purification du métal correspondent à ce que nous comprenons aujourd'hui comme étant le passage du minerai au métal. Et donc, il n'y avait pas de terme spécifique pour distinguer le métal de son propre minerai. Mais les opérations techniques fonctionnaient quand même. On peut avoir des techniques très efficaces qui sont justifiées par des théories fausses.
Merci.
Madame, regardez, c'est de vous.
Oui, bonjour. Si je vous ai bien compris, vous disiez que dès le XIIIe siècle, certains scientifiques connus de leur époque, rédigeaient des ouvrages d'alchimie sous d'autres noms. Est-ce que j'ai bien compris ?
Je ne vous entends pas bien, excusez-moi.
Ah, je vais essayer de parler plus près du micro. Oui. Est-ce que j'ai bien compris qu'à partir du XIIIe siècle, certains scientifiques rédigeaient des ouvrages d'alchimie sous un autre nom que le leur ?
Ah oui, ça c'est une pratique extrêmement courante. Si vous êtes un obscur moine travaillant dans un petit atelier où on fabrique des médicaments et que vous avez envie de rédiger un traité pour faire part de vos découvertes, le manuscrit ne va pas circuler. Si vous dites que c'est en fait un manuscrit d'Aristote, il va circuler et on va le recopier avec beaucoup d'ardeur. Donc c'est un procédé tout à fait banal, qui n'est pas propre à l'alchimie d'ailleurs, mais jusqu'au moment de l'imprimerie, en tout cas, c'est une coutume très fréquente de faire circuler des textes sous des noms de personnages célèbres qui n'en sont évidemment pas l'auteur. Et si en plus on est convaincu que plus un texte a d'antiquité, plus il est crédible, on aura tout intérêt à l'attribuer à un auteur très ancien.
Et en haut à droite.
Oui, je m'interroge sur la métaphore ou l'aspect philosophique, puisque vous avez parlé évoqué un peu la Chine. Or, en Chine, l'alchimie était aussi basée sur le mercure.
Oui, tout à fait.
Ce fameux lac de mercure que Qin Shi Huangdi espérait construire pour garder son éternité. Oui, quelle est la relation, justement, entre ce mercure tellement recherché?
C'est quelque chose qui reste très peu étudié aujourd'hui. Pour l'instant, ce qu'on peut constater très objectivement, c'est un développement parallèle. C'est-à-dire, il est incontestable, tous les travaux de Joseph Needham, en particulier sur la science chinoise, l'ont mis en évidence, qu'il y a eu depuis très longtemps en Chine des grands développements de quelque chose qui est tout à fait comparable à l'alchimie arabe et médiévale, et donc à la chimie de l'époque. Alors, quel lien y a-t-il eu entre les deux? C'est beaucoup plus difficile de savoir. Certains auteurs aujourd'hui, certains spécialistes pensent que vers le 10e, 12e siècle, peut-être un peu avant, il a pu y avoir des contacts, mais surtout sur des procédés techniques. C'est-à-dire que les alchimistes de langue arabe, enfin d'écriture arabe, mais qui sont en fait des Iraniens, hein, comme Jabir Imdayan ou Arrasi, ont pu, les gens qui travaillaient avec eux, ont pu bénéficier de recettes qui étaient apportées par des voyageurs venant de Chine. Ça, c'est possible, mais on a très peu de traces, parce que dans les manuscrits et rédigés en arabe que nous connaissons, on n'a pas de référence précise à ce genre de choses. Donc on n'a pas de témoignages écrits de ce genre d'influence. Donc on est obligé pour l'instant de constater des similitudes, et il est très difficile d'affirmer qu'il y ait eu influence, dans un sens ou d'ailleurs dans l'autre.
Tout devant, monsieur. Alors, attendez, oui, ici, et puis ensuite, ce sera votre tour. Allez-y.
Merci déjà de ce très intéressant exposé. J'ai une toute petite question sur le terme anti-moine.
Oui.
S'il vous plaît. Pourquoi? C'est contre les moines?
Ah non, pas du tout. Oui, il y a des gens qui l'ont dit. Effectivement, hein, des légendes circulent disant que un nommé Basile Valentin, qui était l'inventeur des recettes à base d'antimoine, avait décimé le couvent dont il était, etc. Mais non. Antimonium est un mot qui est un mot latin, mais qui est forgé sur des racines grecques ou arabes, je ne sais plus d'ailleurs. Mais en tout cas, qui n'a absolument rien à voir avec l'antimoine. D'ailleurs, en latin, ça ne marche pas. Alors, jeu de mots.
Les meilleurs arguments que pourraient invoquer les alchimistes, c'est que ce qu'ils réalisent, finalement, existe déjà dans la nature. Autrement dit, est-ce que l'expérience qu'ils pouvaient avoir de ce qu'ils voyaient dans la nature ont pu aboutir à leurs travaux?
Oui, tout à fait. L'un des leitmotifs des alchimistes, c'est toujours de rappeler qu'ils œuvrent conformément à ce que nous appellerions les lois de la nature. C'est une expression un peu anachronique, mais enfin conformément au règne de la nature. Et ils insistent avec force sur ce point, parce que là, cela leur permet de se défendre contre des accusations de magie. Et l'histoire montre que s'il est arrivé que quelques alchimistes soient inquiétés quelquefois par l'Inquisition, parce qu'on les soupçonnait de pratiques diaboliques, magiques, etc., en réalité, on n'a pas connaissance d'alchimistes qui aient été condamnés en tant qu'alchimistes.
Mais inversement...
Donc c'était pour eux très important de dire ce que nous faisons, c'est de reprendre des procédés naturels et de le remettre en œuvre dans le laboratoire.
Mais alors inversement, on peut constater que dans la nature... Il y a, ne serait-ce que le phénomène de rouille, il y a quelque chose de péjoratif dans l'action de la nature, alors qu'eux voulaient copier des actes naturels, mais qui seraient valorisants, comme le développement de l'or.
Tout à fait. Oui. Donc en même temps, ils se veulent fidèles au règne de la nature, mais ils espèrent contribuer à l'améliorer. C'est pour ça que... un collègue, c'est William Newman, qui est un historien de l'alchimie aujourd'hui, américain, dit, de façon je crois un peu forcée, que les alchimistes du Moyen-Âge sont les premiers à avoir mis en œuvre ce qu'on appelle la technologie, hein, l'esprit de la technologie, c'est-à-dire l'idée que par son action sur la nature, en utilisant les moyens de la nature, l'homme va faire mieux que la nature. C'est vrai que certains alchimistes avaient tendance à penser cela, mais en restant dans le cadre de procédés naturels. Améliorer la nature, ça c'était leur objectif.
Mais le but est économique également.
Économique,
Enfin, je veux dire, transformer quelque chose en or ou en argent. Oui.
Les alchimistes s'en défendent. Ils disent toujours que si votre but, c'est de vous enrichir ou d'enrichir le prince qui finance la construction de votre laboratoire, vous êtes mal parti et vous risquez d'échouer. Donc il faut œuvrer pour le bien-être de l'humanité, mais pas pour son enrichissement. C'est-à-dire, finalement, cette alchimie est toujours au service d'une manière ou d'une autre de la médecine. Ce qui fait que ce qui intéresse l'alchimiste, bien sûr, c'est de pouvoir transformer du métal vil en or, mais simplement comme preuve de l'efficacité de ces procédés, qui seront ensuite appliqués à d'autres domaines. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de guérir les métaux, ce qui est intéressant, c'est de guérir les êtres vivants, les êtres humains.
Oui, bonjour. Je souhaiterais, c'est un peu en prolongement de ceux dont vous venez de parler. J'aimerais savoir, parce que je ne suis pas du tout compétente en la matière, s'il y a à ce jour, actuellement, encore des recherches sur l'alchimie, si le domaine de, justement, vous commencez à en avoir parlé, d'application a changé par rapport à ce qu'il était précédemment, dans les siècles anciens, justement, depuis qu'il s'est séparé de la chimie. Quel est l'état des connaissances ou des informations du domaine d'activité à ce jour, si, en plus de ce que vous venez de nous dire?
Si vous vous placez sur le plan de la chimie ou de la physique, parce qu'on va être là à un point où je crois les deux disciplines se rencontrent, je crois qu'on peut dire tout simplement qu'avec les sources d'énergie dont disposaient les alchimistes jusqu'au XIXe siècle, il n'est pas possible d'opérer des transmutations. Avec la puissance que l'on dispose aujourd'hui et en travaillant sur la structure atomique des métaux, on peut bien sûr obtenir des transmutations métalliques à un coût pas très intéressant, parce que je crois que ça revient plus cher que si on va chercher l'or dans les mines. Donc, mais ce n'est plus la même chose dont on parle. Alors, les gens qui aujourd'hui, parce qu'il y en a, s'intéressent à l'alchimie et veulent et ont des laboratoires d'alchimie veulent s'instruire de la lecture des textes médiévaux du XVIIe siècle et les prolonger, sont habituellement des gens qui considèrent que le travail de la chimie n'est qu'un support, un prétexte pour une élévation spirituelle. Mais ça, c'est une idée qui vient du XIXe siècle. Donc penser que l'alchimie, c'est cela, c'est, je crois, commettre un gigantesque contresens historique sur ce que fut l'alchimie. C'est à partir du moment où l'espoir de transmuter les métaux disparaît, c'est au moment où les pratiques des chimistes alchimistes du XVIIe siècle sont remplacées par de nouvelles pratiques qui deviennent la chimie telle qu'on la connaît à l'époque de Lavoisier et ensuite, c'est à partir de ce moment-là que des nostalgiques de la lecture des textes alchimiques anciens vont dire « oui, mais l'alchimie, ce n'est pas de la chimie ». Mais ça, c'est une idée récente. C'est une idée du XIXe siècle.
Au milieu, tout au milieu, monsieur.
Oui, bonjour. Alors, en vous écoutant, j'ai compris que pendant des siècles, les alchimistes ont travaillé, ont essayé de comprendre les lois de la nature. Ils ont fait des expériences, ils se sont transmis un savoir. Vous avez évoqué il y a quelques minutes l'idée de guérir non pas les métaux mais les humains. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils ont, dans la pratique, apporté quelque chose, peut-être des procédés de métallurgie qui ont vraiment été utiles, ou de véritables remèdes qui fonctionnaient réellement? Est-ce qu'il en est sorti quelque chose d'utilisable à leur époque, de leurs travaux et de leur savoir?
Je dirais oui, tout, d'une certaine manière, dans la mesure où, sur le plan de la chimie elle-même, les travaux qu'ils font en laboratoire constituent le socle de la chimie qui se développe ensuite. C'est-à-dire que ce sont bien ceux qu'on appelle les alchimistes qui ont travaillé sur les sels, sur les acides, sur les alcalis et qui ont permis l'éclosion de toutes les connaissances qui constituent le béaba de la chimie la plus élémentaire aujourd'hui. Dans le domaine de la médecine, les médecins paracelsiens sont les gens qui ont inventé l'idée qu'on peut fabriquer des médicaments à partir de substances minérales. Ce qui est quand même, si je suis bien informé, l'un des socles encore aujourd'hui de la pharmacologie. C'est eux qui ont inventé cela.
J'avais entendu parler de l'histoire assez singulière du turquoise, de la préparation d'un pigment en rapport avec un rite religieux. Est-ce que là, il y a une singularité, effectivement, des visées de la chimie ou de l'alchimie, avoir préparé un pigment, raffiner la mise au point, maîtriser, comprendre la chimie sous-jacente à des fins religieuses?
À des fins religieuses? Pas spécialement à des fins religieuses, non, je crois pas. Non.
Je pensais que c'était. Précise, en fait, c'est un peu le. Pardon. Que la préparation du turquoise par les Hébreux représentait effectivement. C'était le travail des prêtres. Est-ce que c'est quelque chose de très singulier ou est-ce qu'elle a quelque chose d'un peu plus général?
Ce sont des réinterprétations tardives, hein, c'est-à-dire que les alchimistes qui sont, quand ils sont arabes, ils sont musulmans, quand ils sont du monde occidental, ils sont chrétiens, et donc ils sont imprégnés de la lecture des textes sacrés, et un certain nombre d'entre eux, quelquefois de façon un peu osée, qui leur vaudra des réprimandes, essayent de relire des textes anciens, des textes de la Bible, en particulier à la lumière de leurs connaissances chimiques. Mais ça, ce sont des réinterprétations très, très tardives et qui semblent un peu hasardeuses, me semble-t-il.
Bien, ben je crois que nous avons fait le tour. Nous allons en rester là. Demain, nous remercions donc Bernard Joly et demain, nous passerons...